On aurait pu faire cette interview uniquement par SMS ou par message texte. Mais comment dire ? Déjà que notre programme est très expérimental, je crois que là, vous nous auriez déjà fui, ce qui n'est pas du tout l'idée. Si effectivement les systèmes de messagerie, qu'ils soient instantanés ou courriels, sont aussi variés que leurs protocoles, il existe le projet fou de tout grouper dans de grouper toute communication électronique d'un individu dans un dossier unique. Pour parler de ce projet open source CaliOpen, nous interviewons par visiophonie Laurent Chemla, cofondateur de Gandhi, membre du comité stratégique de la Quadrature du Net, voleur qui a fait sa confession et pâtissier dans son garage réputé.
CPU, carré et petit utile.
Donc Laurent Chemla, bonjour. Vous êtes développeur et initiateur du projet CaliOpen.
Ouais.
Donc c'est un projet de décentralisation et de sécurisation des messageries. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment la naissance et le besoin initial au début de ce projet ?
C'est long, c'est très compliqué. Au départ, tout au début, c'est juste au moment des révélations d'Edward Snowden. Il se trouve que Jeremy Zimmerman de la Quadrature du Net est en vacances chez moi. Et comme il savait que j'avais un très vieux projet dans mes bagages de messagerie pas spécialement sécurisé, mais concurrente de Google Mail, il m'a dit, faudrait que tu relances ce truc-là en faisant du logiciel libre et en te débrouillant pour en faire quelque chose qui permettra d'échapper aux grands silos comme Google et comme tous ceux qui participent à Prism, puisqu'à l'époque, on parle de Prism. Et à partir de là, s'est engagée une longue réflexion qui a duré pas loin d'un an, avec des designers, surtout un designer, pour essayer d'imaginer ce que serait un système de messagerie, pas spécialement du mail, mais un système de messagerie qui pourrait répondre à cette problématique de comment faire pour éviter la surveillance généralisée sur les correspondances privées. Et donc la réponse est nécessairement plus compliquée que dire on va faire une messagerie sécurisée, parce que juste faire du mail sécurisé, ça marche, c'est efficace, c'est utile. Il y en a comme ProtonMail qui le font très bien, par exemple. Mais ça concerne trop peu de gens, ça ne concerne que des gens qui sont très sensibilisés, suffisamment sensibilisés par la question pour changer d'adresse email, ce qui est déjà lourd, changer d'habitude, payer. C'est quelque chose qui ne peut concerner qu'une très petite minorité de la population. Or, la problématique de la surveillance généralisée, c'est qu'elle concerne toute la population. Et ça n'est pas parce que les personnes les plus sensibilisées vont se protéger que le reste de la population le sera d'une part et qu'elles-mêmes le seront d'autre part parce qu'elles échangent nécessairement avec le reste de la population qui, elle, n'est pas sensibilisée et qui reste dans les grands silos. Donc répondre à ce problème-là n'est pas aussi simple que de dire on va créer une messagerie sécurisée. Ça doit passer par une réflexion plus poussée sur ce que sera l'avenir de la messagerie, comment faire en sorte de créer un outil qui va concerner le plus grand nombre cette fois-ci et qui fera en sorte que le plus grand nombre aura envie d'utiliser, pas parce que c'est plus sécurisé, mais parce que ça lui apporte quelque chose de nouveau. Et ensuite, comment faire en sorte que ce quelque chose de nouveau-là amène les gens vers une meilleure conscience de leur niveau de confidentialité, vers une plus grande volonté de se sécuriser par la compréhension, par l'appréhension de ce niveau de confidentialité. Et voilà, donc ça nécessite non seulement de trouver des outils, d'inventer des outils nouveaux, mais aussi d'inventer une expérience utilisateur qui fera que l'utilisateur, justement, sera poussé à faire des efforts qu'aujourd'hui il n'a pas envie de faire. Et ensuite, il faut fabriquer tout ça, et ça prend du temps, surtout parce que c'est pas évident de trouver dans le monde du logiciel libre des gens assez motivés pour comprendre la problématique et participer au développement. Donc voilà.
D'accord. L'idée, c'est d'adresser le grand public. Comment est-ce qu'on adresse le grand public ? En faisant des outils simples, en les poussant à s'éduquer pour se protéger ou en les protégeant malgré eux ?
Non, mais aucune de ces trois solutions ne permettra d'atteindre assez de monde. La seule façon, en tout cas, ma vision du truc, c'est que la seule façon d'attirer le grand public, c'est de lui proposer un truc dont il aura envie. C'est tout. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à motiver les gens. C'est pas en leur faisant peur, c'est pas en leur expliquant. Tout ça, on l'a déjà fait des centaines et des milliers de fois. Ça marche uniquement pour une très petite partie de la population. Si on veut vraiment toucher le plus grand nombre, il faut lui proposer un truc qu'il aura envie d'utiliser. Donc là, l'idée qu'on a eue, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est la seule qu'on ait trouvée qui puisse permettre de faire ça, c'est de dire, aujourd'hui, votre communication, votre correspondance privée est complètement explosée entre le mail, évidemment, mais les SMS, les textos, comme tu en parlais tout à l'heure, les messages privés sur les réseaux sociaux, pour les plus tech d'entre nous, les messages privés sur IRC, y compris tout, et, ou même dans des forums, quand tu participes à un forum quelconque, ou que tu es sur LinkedIn, tu te prends des messages privés, quand tu es sur un forum, tu te prends des messages privés, ta correspondance privée aujourd'hui, elle est explosée dans une quantité d'endroits qui t'oblige à te connecter sur tout un tas de trucs. En plus, on te prévient par mail, tiens, t'as un nouveau message sur tel truc. Enfin, ça devient n'importe quoi. L'idée qu'on a eue, c'est de dire, créons un outil qui permette d'ajouter tous ces comptes sur lesquels on reçoit de la correspondance privée et qui regroupe les messages, non plus par thème ou par technologie utilisée pour les envoyer, mais par participant à la correspondance, participant à la discussion.
D'accord, donc l'idée, c'est d'identifier en fait plus l'interlocuteur et le sujet que le média, le média en lui-même, quoi.
Même pas le sujet en réalité, pour une raison à la fois technique, qui est qu'il y a tout un tas des protocoles qu'on entend intégrer qui n'ont pas de sujet. Un message privé Twitter, il n'a pas de sujet. Un SMS, il n'a pas de sujet. Cette notion disparaît dans la plupart des systèmes de correspondance privée, il n'existe quasiment que dans le mail. Et d'autre part, on s'est aussi aperçu qu'au quotidien, quand on a une communication, un dialogue suivi avec quelqu'un, même par mail, c'est très rare que le contenu des messages continue à correspondre au sujet au-delà de deux ou trois. Du coup, dans notre réflexion longue qui a duré un an avec un designer, on a fini par se dire, laissons tomber cette notion de sujet. En réalité, notre sentiment, notre feeling, c'est que ça n'a pas d'importance réelle dans la correspondance privée. Donc ça devrait disparaître en pratique, au quotidien, en vrai, IRL, j'allais dire. En tout cas, AFK, comme vous dites plutôt les jeunes. quand on parle avec quelqu'un, que ce soit par téléphone ou quand on se voit ou quand on fait une teuf ou machin, on se rappelle de la conversation, elle dure, elle continue par des moyens, mais ce qui spécifie cette conversation-là, c'est la personne avec qui on parle. Le sujet, il est variable selon le temps, selon l'humeur, selon plein de choses. Ce qui définit une conversation, c'est quand même les participants à cette conversation. Donc, c'est à partir de ça qu'on va définir une conversation dans Calliopen. Ce sont les participants à la conversation.
D'accord. Tu le disais, donc Calliopen, ça va agréger plusieurs médias, donc les mails, l'IRC, le chat Facebook, Twitter. Comment on peut agréger tout ça et le sécuriser? Est-ce qu'on travaille plutôt sur la sécurisation avec le serveur ou la sécurisation de bout en bout, d'interlocuteur à interlocuteur?
Alors ça, le point principal dans Calliopen, c'est qu'on affiche en permanence ce qu'on appelle le niveau de confidentialité. Ça n'est pas blanc ou noir. Un niveau, c'est de 0 à 100, par exemple, c'est une échelle. Quand tu vas vouloir écrire à quelqu'un à partir de ton Calliopen, tu auras ajouté des comptes pour identifier ton interlocuteur, donc son compte Facebook, son compte Twitter, son email, son Jabber, j'en sais rien. Calliopen, par défaut, va utiliser le protocole le plus sécurisé et va t'afficher le niveau de confidentialité de cet échange et te proposer des moyens de l'améliorer. Si tu utilises ton email, par exemple, son email pour lui écrire, et qu'il se trouve que Calliopen pense avoir trouvé une clé publique qui correspond à cet email, il va te proposer de l'utiliser pour chiffrer. Si tu utilises Jabber via un canal sécurisé, il va plutôt utiliser Jabber pour lui envoyer un message, et ainsi de suite. Et à la fois, il va essayer d'augmenter en permanence ton niveau de confidentialité. En même temps, il va te proposer des solutions pour l'améliorer, y compris en disant à ton interlocuteur, voilà ce que tu devrais faire toi pour améliorer notre niveau de confidentialité. Parce que là, j'ai envie de te dire un truc, mais que moi, mon Calliopen m'affiche que tout le monde pourra le lire, donc je peux pas te le dire tant que tu n'auras pas fait d'effort. Donc voilà, on espère aussi faire boule de neige et convaincre les gens, justement, en affichant ça.
Alors, donc l'idée, c'est aussi peut-être de promouvoir les systèmes les plus sécurisés ou de montrer du doigt les mauvais élèves.
On va pas montrer, on va convaincre. Je pense que ce simple affichage va motiver les gens. Simplement, le simple fait d'avoir une note sur ton compte HealthOpen qui te dit, voilà, ton niveau global de confidentialité à toi, utilisateur, il est de 10 sur 100. Mais tu peux l'améliorer en te créant une clé publique, en définissant mieux ton terminal, en prenant l'habitude de te déconnecter quand tu as fini. Des choses très, très simples, hein. Ça va pousser l'utilisateur à le faire simplement parce qu'il est noté. C'est comme un jeu, si tu veux. Ce qu'on appelle de la ludification de nos jours, hein. C'est comment faire en sorte d'améliorer ton niveau. Voilà, on va te proposer des pistes. Comment faire en sorte de l'améliorer encore au-delà de ces pistes? Ben, il va falloir que tu convainques tes interlocuteurs de faire comme toi parce que tu vas pouvoir leur expliquer. On te donne un argumentaire que toi, tu n'as plus envie d'échanger avec eux des choses trop confidentielles parce que tu vois, comme à l'époque où on recevait des lettres scellées, tu vois que personne ne l'a ouvert ou tu vois que quelqu'un a pu l'ouvrir. Donc, tu n'as pas envie de dire les mêmes choses en fonction des différents niveaux de confidentialité. Et tu vas essayer de convaincre les interlocuteurs de eux aussi de s'améliorer. Donc, c'est un processus qu'on veut engager, qui est long, qui est compliqué, parce que pendant des années, le processus inverse a eu lieu. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait croire aux gens que leur vie privée n'avait pas d'importance, que de toute façon, puisqu'ils affichaient plein de choses sur Internet, ils pouvaient aussi bien afficher leur correspondance. Donc, faire le mouvement inverse, ça va prendre du temps, c'est un processus. Et HealthOpen va essayer d'accompagner ce processus en y intégrant le plus grand nombre. Voilà.
Effectivement, on entend beaucoup de critiques à propos des systèmes de communication comme Jabber, comme XMPP, qui sont un peu marginaux. On dit il n'y a pas la masse critique, mes amis ne sont pas dessus. Là, l'idée, c'est de tout regrouper pour vaincre un peu ce problème de masse critique et amener ensuite progressivement des gens vers des choses plus sécurisées.
Oui, si tu veux, mais les pistes, on les verra au fur et à mesure. J'allais dire, HealthOpen est en train d'être développé sur la base d'un système de plugins. Donc, on pourra toujours ajouter des plugins pour le nouveau protocole à la mode, le nouveau, je sais pas moi, la nouvelle application sur smartphone que les gens utilisent pour les rajouter au fur et à mesure. Et à chaque fois, proposer le système le plus sûr pour écrire à quelqu'un en fonction des différents comptes qu'on aura identifiés pour ce contact. Mais évidemment, si aucun compte n'est sécurisé, on ne pourra pas lui écrire des messages confidentiels. Du coup, on affichera sur le message qu'on lui envoie qu'il a un niveau de confidentialité très bas. Ça n'est pas non plus grave de ne pas pouvoir écrire à quelqu'un de façon confidentielle du moment qu'on sait. Si on fait rentrer dans la tête des gens que cette personne-là, on peut pas lui écrire de façon confidentielle, mais c'est pas grave, on peut lui écrire quand même. Simplement, on lui dit pas de truc confidentiel, c'est déjà un truc énorme aujourd'hui. Ensuite, si on atteint une masse critique suffisante, si de plus en plus d'utilisateurs se mettent à prendre conscience de ça, et ont envie de s'améliorer, et ont envie de faire les quelques efforts nécessaires pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs correspondants, à ce moment-là, on commencera à renchérir le prix de la surveillance de masse suffisamment, peut-être un jour, ça sera encore une fois pas du jour au lendemain, peut-être un jour pour que les États et les grandes entreprises se disent « ça vaut plus le coup, ça vaut plus le coup, ça coûte trop cher maintenant de surveiller la totalité des gens, donc on va trouver d'autres modèles économiques ou revenir à de la surveillance plus ciblée des méchants terroristes ou des méchants espions chinois et arrêter d'imaginer qu'en surveillant la totalité de la population parce que c'est facile et pas cher, on pourra choper les méchants. »
Alors, il faut cacher l'aiguille dans une botte de foin, mais la botte de foin n'est pas assez grosse.
Voilà, aujourd'hui, elle est trop petite. C'est clair que, même si on... J'ai pas les derniers chiffres, mais ProtonMail, qui est, je crois, le plus gros système aujourd'hui qui permet un peu de confidentialité, c'est de l'ordre de centaines de milliers d'utilisateurs, voire de millions d'utilisateurs. En face de ça, on a, pour le seul Google Mail, 1 milliard de comptes actifs. Donc, à partir du moment où toi, tu te sens sécurisé parce que tu utilises ton 1 millionième de compte ProtonMail, quand tu dois échanger avec des vrais gens au quotidien, les vrais gens, ils vont être chez Google Mail. Tu vas te retrouver à 1 pour 1000, 1 chance sur 1000 d'écrire à quelqu'un d'aussi sécurisé que toi. Donc, en pratique, tout ce que tu vas dire publiquement restera public et restera interceptable. En tout cas, pour 999 pour 1000 de tes échanges. Ce qui pratiquement permet de tout savoir de toi quand même. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui. On voit bien que la masse n'est pas là, même pour le plus gros des intervenants actuels. C'est pas possible. de rester dans ce modèle-là. Ça ne sert à rien si l'objectif, encore une fois, est de contrer la surveillance de masse. Si l'objectif, c'est de garantir un certain niveau de confidentialité entre quelques personnes très sensibilisées, c'est utile et fonctionnel. Et ce n'est pas l'objectif de CallioPen. Cet objectif-là, il est rempli par des services comme ProtonMail, très bien d'ailleurs, j'ai absolument rien contre eux. Simplement, ce n'est pas notre objectif. Et voilà, il faut bien le comprendre. Il faut comprendre que l'objectif de CallioPen, ça n'est pas de sécuriser la correspondance privée de quelques-uns, c'est d'augmenter la masse critique de gens qui utilisent des systèmes sécurisés pour rendre trop cher la surveillance de masse.
On parlait de Gmail, justement, ils ont récemment sorti une option où ils affichent une alerte quand le serveur en face n'est pas sécurisé. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que, de toute façon, le fait que les gens restent chez Gmail, c'est un problème en soi?
Les deux. Ça va dans le bon sens. Non, mais évidemment, ça va dans le bon sens. D'abord, moi, ça m'a fait très plaisir parce que ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé CallioPen. Et que l'évolution en 2 ans et demi de la plupart des silos et de la correspondance en général va dans notre sens. Des idées qu'on a eues il y a 2 ans et demi sont en train d'être mises en place ailleurs. Donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé il y a 2 ans et demi. C'est déjà pas mal, quoi. Ensuite, oui, donc ça va évidemment dans le bon sens. C'est pas suffisant parce qu'encore une fois, c'est blanc et noir. On peut pas, la confidentialité, c'est pas blanc ou noir. C'est pas aussi simple que ça. On peut pas dire c'est sûr ou c'est pas sûr simplement parce que ton transport est sécurisé. Si le contenu ne l'est pas, si Google, justement, y a toujours accès, et c'est le cas, à partir de là, la NSA y a aussi accès, depuis Prism, on le sait, donc ça ne sert pas à grand-chose en termes de confidentialité. Ça sert simplement à ne pas être intercepté par un tiers que Google. Mais comme Google lui-même intercepte et qu'il fournit les données interceptées au gouvernement américain, l'intérêt en est quand même très limité. Donc, on peut dire que ça ne va pas dans le bon sens, parce que ça réhabitue les gens à faire attention au niveau de confidentialité de ce qu'ils écrivent. Donc, c'est déjà pas complètement inutile, mais le niveau d'utilité est encore très bas.
D'accord. Dernière question pour finir cette interview. Le projet CallioPen, il en est où et quels sont ses besoins pour le futur? Est-ce qu'il y a besoin de moyens financiers, de développeurs, de bénévoles, de contributeurs divers? Qu'est-ce qui pourrait faire avancer le projet?
Il y a une bonne nouvelle cette semaine, c'est qu'on a officiellement, depuis le départ du projet, Gandhi me soutient. Gandhi, c'est mon ancienne boîte, elle a été vendue il y a 10 années. Mais depuis le départ, la boîte me soutient et nous a toujours aidés. Là, depuis maintenant moins d'une semaine, officiellement, Gandhi a embauché un développeur qui va travailler à plein temps sur CallioPen pour le front. C'est le point principal et le plus difficile. Voilà. Donc, on a cette bonne nouvelle. Maintenant, ce qui peut aider à aller plus vite, oui, évidemment, on va chercher des fonds. Là, on a déposé un dossier auprès de la BPI pour aller encore plus loin dans pouvoir embaucher encore plus de monde. Le vrai problème du logiciel libre aujourd'hui, c'est que pour un projet aussi ambitieux que celui-là, en tout cas, il faut vraiment une masse de travail considérable et que c'est compliqué de trouver des gens du niveau nécessaire pour fabriquer des choses aussi complexes, quoi. C'est compliqué parce que les gens qui ont ce niveau-là, ils ont déjà leur propre projet en général. Ils ont déjà leurs propres idées, leurs propres envies. Ils n'ont pas spécialement envie de venir intervenir sur un projet qui n'est pas le leur. Donc, les convaincre, c'est pas facile. Et au moins, pour commencer, pour arriver à quelque chose, à montrer un outil qui sera utilisable, même s'il est encore très limité, qu'il ne gère que le courrier électronique et pas encore les autres protocoles, ou qu'il n'affiche pas encore tout ce qu'il devra afficher à terme, ou qu'il n'a pas encore de gestion d'agenda ou d'autres trucs comme ça, pour en arriver à un produit utilisable et qui va attirer enfin une petite communauté de développeurs autour, il faudra bien sûr, maintenant on en est convaincu, salarier des gens, donc on cherche de l'argent, mais on en est qu'au début de ça, je suis pas très inquiet sur la recherche d'argent, je pense que dès qu'on aura une petite alpha, on pourra commencer à réfléchir, soit créer une boîte et trouver des financiers derrière qui la financeront, soit faire du crowdfunding, soit faire les deux. Un des objectifs dans CallioPen, c'est d'avoir une association qui soutiendra le futur, c'est-à-dire qui permettra de garder le logiciel up-to-date en permanence, de faire des évolutions, de faire des mises à jour de sécurité, ainsi de suite. Cette association, elle peut parfaitement être financée par du crowdfunding pendant qu'en parallèle, une entreprise de type start-up ou autre se met en place pour créer les premières versions du logiciel qui ensuite seront gérées par l'association. Donc j'envisage une espèce de modèle comme ça, biface si on veut, avec d'un côté des fonds privés, de l'autre des fonds du, j'allais dire des fonds publics, mais du grand public cette fois-ci, de la foule, pour amener le projet jusqu'au point où il vivra sa propre vie, il aura plus besoin de mon aide. Voilà.
D'accord. Donc, bah écoute, on mettra tous les liens aux auditeurs qui sont intéressés. Laurent Chamla, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette interview qui est passée par plusieurs canaux de communication non sécurisés.
Ou plus ou moins.
Plus ou moins.
Ou presque.